L'imposture du praticien, ou comment sortir du sentiment d'imposture du praticien en hypnose. À mes débuts, j'avais la boule au ventre quand je recevais des clients en séance d'hypnose. Même après avoir été recruté dans une école d'hypnose pour former des praticiens, et malgré mes années de pratique et de travail personnel, j'ai continué à ressentir cette même peur, celle de ne pas réussir à faire vivre à mes clients et à mes stagiaires des états d'hypnose profonds. Si bien que j'ai progressivement évité de faire des transes formelles en séance. Je me justifiais en disant que j'avais évolué dans ma pratique et que je trouvais l'hypnose formelle pas toujours adaptée à certains clients. Je continue à penser que de nombreux clients viennent chercher dans l'hypnose une solution à leurs problèmes, alors que l'hypnose est justement pour eux le véritable problème. C'est-à-dire, c'est leur manière de fuir des réalités douloureuses vis-à-vis desquelles ils se déresponsabilisent, espérant qu'un coup de main providentiel vienne les sortir de là. Et souvent, en tant que praticien, nous alimentons ce problème de nos clients en leur proposant un changement rapide et efficace dans un cadre d'amour et de bienveillance où le client n'aura qu'à s'allonger, fermer les yeux pour que son inconscient fasse le reste. En d'autres termes, et même lorsque nous en sommes conscients, nous jouons parfois à notre insu ce jeu infantilisant de la déresponsabilisation de nos clients. Ce que je souhaite explorer ici, c'est qu'est-ce qui se cache souvent derrière la peur de l'échec du praticien et qui m'a conduit pendant tant d'années à éviter de faire de l'hypnose formelle. Et cela n'a pas grand-chose à voir ni avec la compétence ni avec l'expertise. Certains appelleront ça le syndrome de l'imposteur ou un sentiment d'illégitimité. Ce n'est que récemment que j'ai appris à mettre un autre nom dessus. En hypnose, on appelle transe le véhicule qu'empruntent les clients pour sillonner leurs autoroutes intérieures. Pour monter dans ce véhicule, on utilise des techniques d'induction qui aident le client à se focaliser sur la route, à lever certains freins, en diminuant par exemple leur facteur critique ou facteur de jugement, et à augmenter leur réactivité, c'est-à-dire en ayant une meilleure réponse aux suggestions du praticien. Notre mission à nous, praticiens, n'est pas tellement de trouver quelle est l'induction qui fonctionne le mieux pour le client, mais de lui apprendre à utiliser une induction, peu importe laquelle, pour rentrer en transe. Autrement dit, ce que nous visons dans une séance d'hypnose à vocation thérapeutique, ce n'est pas le résultat de la transe, mais le chemin du client pour la vivre. Que l'induction qu'on utilise fonctionne ou non avec le client n'a aucune importance par rapport au travail que nous faisons. Nous ne sommes pas en hypnose de spectacle, et l'erreur que commettent la plupart des praticiens, c'est de vouloir à tout prix que ça marche, oubliant que nous œuvrons au service du client et pas au service de notre désir de réussite. Je le répète, au cas où je n'aurais pas été clair. Peu importe qu'une induction fonctionne ou non, il y a pour moi quelque chose de très égocentré dans cette idée que le praticien devrait réussir à mettre son client en transe. Nous ne sommes pas là pour prouver nos compétences d'hypnotiseur, mais pour aider un client à trouver son chemin de transe. Et pour cela, il y a un moyen d'une simplicité redoutable, beaucoup moins fatigant que d'utiliser des suggestions indirectes, à rallonge, avec des doubles présupposés alambiqués, des négations confusionnantes avec choix illusoires et en construisant des chemins d'effets tellement complexes qu'on se perd parfois nous-mêmes dedans. Il suffit de demander directement au client de chercher le meilleur chemin pour entrer en transe. Chaque client a développé des stratégies, parfois très créatives, mais toujours efficaces, pour survivre et s'adapter au monde. Et l'exploration de la transe hypnotique est justement une occasion inespérée pour qu'il découvre où il est doué et si quelque chose l'empêche de vivre un état de transe. Ce sera alors l'occasion d'explorer avec lui ce que c'est. Parfois, ce qui empêche le client de rentrer en transe, ce sont des peurs, des croyances, des jugements qui généralement rejouent la problématique que le client est justement venu travailler. Alors, plutôt que de considérer tous ces obstacles apparents comme des échecs à l'entrée en transe. J'ai appris à les regarder comme les véritables raisons de sa venue. Travailler cela avec le client sera l'occasion d'apprentissage souvent important pour lui. Un client que j'accompagnais récemment à tester ses compétences à s'auto-anesthésier avait réussi, après quelques minutes d'induction, à faire baisser le niveau de sa douleur de 8 sur 10 à 6 sur 10. Après l'avoir félicité, mon premier réflexe a été de lui dire « Super, maintenant que t'es passé à 6 et que t'as vu que tu pouvais influer sur l'intensité perçue de ta douleur, tu vas pouvoir réduire cette intensité à 4. » Voyant que mon client avait froncé les sourcils, j'ai supposé qu'il avait des difficultés à aller plus loin dans l'expérimentation de ses compétences et j'ai alors commencé à faire des suggestions indirectes pour l'aider. Il a fini par ouvrir les yeux agacés. « Namir, tu me saoules. » Ce fut l'occasion d'un sacré apprentissage. Pour mon client, passer de 8 à 6 était déjà une véritable victoire et il ne voyait aucun intérêt à aller plus loin dans ses tests d'anesthésie. C'est à moi que cela ne convenait pas. Ça ne me suffisait pas. Je répondais, sans le savoir, à une injonction inscrite à l'encre indélébile sur mes carnets de correspondance et qui avait fini par se graver dans mon subconscient. Peut mieux faire. Souvent, on croit être au service de nos clients, alors qu'en fait, on est juste au service de nos attentes. Et ces attentes, trop élevées, deviennent, si nous n'y prêtons pas attention, un frein à l'évolution de nos clients. Et c'est aussi ça qui, la plupart du temps, nous fait ressentir la pression, la peur de l'échec, et que nous nommons syndrome de l'imposteur ou sentiment d'illégitimité. En voulant faire baisser le niveau d'anesthésie de mon client pour satisfaire mon niveau d'exigence, j'avais suscité en lui une réaction qui s'est révélée être au cœur de sa problématique. Son opposition systématique à toute demande d'effort lorsqu'il la percevait comme une injonction extérieure. Comme nous avions construit ensemble un bon rapport, sinon il ne se serait pas permis de me dire « tu me saoules », nous avons alors pu saisir ensemble l'occasion de cette transe interrompue pour travailler sur sa problématique. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand certaines suggestions ne passent pas chez mes clients, je ne cherche plus à les contourner par des évocations. Je préfère questionner mon client. Depuis, dans mon approche de praticien, j'ai adopté 3 règles de base. Je te les partage ici. Règle numéro 1, fais confiance à ton client. S'il est impliqué et qu'il se sent en confiance, il fera toujours de son mieux. Règle numéro 2, propose-lui un pacte super clair dans lequel il est l'acteur principal. Explique-lui ce qu'est la transe, explique-lui ce que tu attends de lui pendant la séance, suivre tes instructions, être actif et engagé, et s'exprimer et dire dès que quelque chose ne lui convient pas. Et vérifie qu'il est vraiment engagé. Règle numéro 3. Laisse-le chercher son chemin de transe. Une fois que toi et ton client êtes d'accord et que vous êtes OK pour aller dans la même direction, fais des suggestions simples et laisse-le chercher par lui-même. Aucune de tes suggestions ne sera plus efficace que celle qu'il décide de se faire à lui-même. Et surtout, fais attention à ne jamais avoir plus d'attentes que ton client. Développer avec notre client un rapport d'adulte à adulte et l'aider à découvrir de quoi il est capable par lui-même favorisera sa responsabilisation et son autonomie. Et cela enlèvera au praticien cette pression énorme qu'est la peur de l'échec de l'induction. Mais se défaire des attentes a un coût assez élevé. Cela implique de savoir se taire à certains moments, de ne rien faire, au risque de se sentir inutile, et d'accepter de n'être parfois que de simples prétextes ou des circonstances vaguement favorables à l'évolution de nos clients. C'est facile à dire, beaucoup plus dur à incarner, parce que l'inaction et l'attente peuvent activer chez le praticien des peurs profondes. Nous masquons ces peurs derrière des mots nobles, comme le besoin d'aider, la bienveillance, la posture basse, notre bonne volonté ou une certaine proactivité. En creusant un peu, on pourrait y trouver la manifestation de notre besoin de contrôle, de toute puissance, ou l'expression de notre désir d'importance et de reconnaissance. Aujourd'hui, à chaque fois que j'accompagne un client, je fais très attention à ne pas avoir plus d'attente que lui en me posant cette question. Est-ce que je veux plus que lui qu'il change? Et chaque fois que je ressens que c'est le cas, et ça arrive, je laisse passer quelques secondes pour revenir à une position plus curieuse et plus confiante envers mon client. Et toi, comment tu fais pour identifier tes attentes avec tes clients, tes collègues ou tes amis? Et qu'est-ce que tu fais pour les gérer? Ce que je te partage dans cet article n'est pas une vérité. Il existe sans doute des tas d'autres approches de l'accompagnement. Dans mon cas, apprendre à me défaire de mes attentes excessives m'a tout simplement réconcilié avec le plaisir de l'hypnose et a transformé mes accompagnements en laissant plus de place à mes clients pour qu'ils puissent vraiment prendre pleinement la responsabilité de leur changement. Ça peut sembler moins spectaculaire en apparence et moins valorisant pour l'ego. Mais le héros de l'histoire, c'est pas le praticien. Et si toi, dans ta pratique, tu ressens le besoin de te sentir le héros de tes séances, tu peux toujours venir me consulter. J'espère que cet article t'a été utile. N'hésite pas à me partager ce que t'en as retenu, en quoi il t'a inspiré ou comment tu te positionnes différemment.